BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Closier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag. C'est cette semaine que l'allongement du congé paternité commence à être une réalité. Vous allez pouvoir prendre 25 jours au lieu des 11. On va en parler avec Mathilde Khaled, elle est DRH de Shine. Elle veut aller encore plus loin. Qu'est-ce qu'un bon professionnel en 2021? Ça sera notre sujet avec Faustine Duriez, fondatrice de Coco Worker. Et puis un dirigeant exemplaire. Sur le papier, c'est clair, mais dans la réalité, comment ça marche? On va en parler avec Laurent Labbé, fondateur de Choose My Company. Happy Boulot. Le mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et c'est d'actualité cette semaine, on va parler de l'allongement du congé second parent. Il est effectif depuis hier, jeudi 1er juillet. C'est une petite révolution, ça passe de 11 à 25 jours. Et on va en parler avec Mathilde Khaled. Bonjour, vous êtes DRH de Shine. Shine, c'est un compte pro pour les freelances et les travailleurs indépendants. 120 salariés. Chez vous, le congé second parent, ça existe déjà. C'est déjà les 5 semaines que vont pouvoir prendre les second parents, les pères et les mères pour les couples homosexuels dans quelques jours. Vous, ça existe déjà chez vous? C'était un besoin pour vos salariés?
Effectivement, le congé second parent allongé à 5 semaines existe déjà depuis 2 ans. Pour nous, c'était un enjeu central dans le combat pour l'égalité homme-femme au travail. Également un besoin effectivement qu'on avait anticipé pour nos salariés. Au moment où on l'a lancé, il n'y avait pas encore de salariés concernés, mais ça allait venir, on est une équipe assez jeune. Donc voilà, avant tout, c'était un enjeu central pour dans un combat pour l'égalité homme-femme au travail.
Pourquoi vous mettez cet argument en premier, Mathilde? Pourquoi c'est forcément l'égalité un sujet pour faire en sorte que tout le monde s'arrête en même temps? En quoi c'est important?
Alors, c'est très important pour nous parce que ça permet de lutter contre la discrimination à l'embauche pour les femmes sur lesquelles le risque grossesse pèse. Ça permet de faire de moins en moins de différence au sein des équipes lorsqu'il y a une naissance, que ce soit une naissance pour un homme qui va devenir parent ou une femme qui va devenir parent. Et pour le second parent, que ce soit un homme ou une femme, cela permet aussi de rééquilibrer les choses en lui permettant de passer plus de temps avec son enfant dans ses premiers moments de vie. Parce que justement, du temps, on en a besoin au début à la naissance d'un enfant. C'est important pour créer de nouvelles habitudes et de le faire dans les meilleures conditions.
Vous aviez donc déjà ces 5 semaines. Vous allez passer à 8 semaines. Il faut, en tant que start-up, faire toujours mieux que ce que propose l'État?
Je ne sais pas s'il faut faire toujours mieux en tant que start-up que ce que propose l'État. En tout cas, je pense que pour les sujets qui nous tiennent à cœur, si l'État ne s'est pas mis au niveau en fonction de ce qui nous semble être un niveau correct, on a notre mot à dire, je pense qu'on a notre rôle à jouer et on peut montrer que les choses sont possibles et qu'on peut, nous aussi, avoir un impact à notre niveau, au niveau de la société.
Alors, ce qui est intéressant chez vous, c'est que ces 8 semaines, on va pouvoir les découper, ce qui n'est pas possible avec le congé officiel. Vous devez le prendre d'un coup. Là, on peut prendre quelques semaines, puis d'autres semaines.
Exactement. La seule condition, c'est de les prendre en semaine. Et il y a une autre condition, c'est qu'on a donc 3 semaines obligatoires à la naissance de l'enfant. Et les 5 semaines restantes peuvent être découpées entre 1 mois avant la naissance de l'enfant et 4 mois après la naissance de l'enfant. Pourquoi? Parce que quand c'est le deuxième enfant ou le troisième enfant et qu'il y a déjà donc il y a la conjointe qui est enceinte et que du coup c'est plus difficile de s'occuper des enfants à la maison, nos salariés nous ont remonté que ça pourrait être une bonne idée de pouvoir prendre des semaines en amont. Et 4 semaines après, c'est pour permettre de pouvoir découper s'ils le souhaitent, pouvoir reprendre quelques semaines de congé, par exemple au moment où la compagne reprend le travail. C'est vraiment pour être le plus adaptable possible par rapport à la réalité de ce que vivent les employés.
Il faut bien sûr que le congé existe, mais il faut le prendre dans la réalité, passer de la théorie aux actes. Est-ce que chez vous, le congé second parent est compensé à 100%?
Oui, il est compensé à 100%.
Ça, c'est essentiel.
Je pense que c'est essentiel, sinon il y a trop de risques que le congé ne soit pas pris pour diverses raisons, précarité ou autre. C'est vraiment un élément qui est important pour nous, tout comme c'est important pour nous de maintenir le salaire à 100% pour les femmes qui partent en congé maternité, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise.
Vous avez signé le Parental Act, c'est quoi ?
Le Parental Act, donc, c'est un collectif de plusieurs entreprises, des centaines, qui se sont engagées avant que l'État allonge le congé à 5 semaines, qui s'engageaient déjà à donner 5 semaines de congé en cas de congé second parent, en cas de naissance d'un enfant au sein de la famille.
Est-ce que vous avez l'impression, en tant que start-up, que si vous ne proposez pas ce congé parental, si vous n'êtes pas un peu moderne sur les questions sociétales, vous allez perdre vos talents ?
On ne l'a pas pensé comme ça. On ne l'a pas pensé comme un modèle de marque employeur ou de rétention d'employés. Le but, c'était vraiment d'essayer d'aller vers quelque chose qui nous semble le modèle le plus efficace, enfin l'efficace, le mot est mal choisi, mais en tout cas qui soit un modèle qui nous convient le mieux par rapport à nos objectifs de diversité et d'inclusion.
Donc quand même, il y a un sujet d'attractivité. Vous avez un objectif de diversité, il faut attirer.
Non, alors je ne dirais pas que c'est fait pour attirer nos talents. C'est vraiment pour, encore une fois, c'est un enjeu de société. Et nous semble important en tant qu'entreprise d'y contribuer en attendant que l'État s'y mette lui aussi et allonge également son congé. Il y a des effets secondaires, on ne peut pas le nier. Oui, effectivement, je pense qu'on peut faire de la rétention, comme on dit, la rétention de talent, que peut-être que ça peut être notre politique familiale être attractive, mais on l'a vraiment
pensé. Donc pour vous, c'est davantage plus un impact social, sociétal qu'un sujet d'attractivité. Vous considérez qu'en tant qu'entreprise, vous avez un rôle à jouer dans le débat public ?
Définitivement, oui. C'est comme ça qu'on l'a pensé. Et voilà, c'est un parti pris et c'est très important pour nous d'aller dans ce sens-là et de faire en sorte, avec nos moyens, d'accompagner les parents au moment de la naissance de leur enfant.
Un mot sur
soit, et sans les rejets.
Un mot sur l'autre actualité, le retour au travail, la période de mutation avec la crise sanitaire. Vous êtes organisé comment en termes présentiel, distanciel ?
Alors nous, pendant toute la crise, on a opté pour le télétravail par défaut, comme la plupart des entreprises. Donc aujourd'hui, on a rouvert nos bureaux avec une jauge pour ne pas dépasser un certain nombre de personnes au bureau pour pouvoir avoir l'espace nécessaire entre nous afin de respecter les gestes barrières. Aujourd'hui, donc les salariés peuvent revenir sur site quand ils le veulent, dans la limite de 1 à 2 jours par semaine. Et sinon, on est resté sur sur un modèle de télétravail en attendant qu'on sorte un peu plus pérennement de cette crise.
Vous qui êtes sur une population plutôt jeune, cadre, urbain, ils ont l'envie de revenir au travail ou ils ont plutôt envie d'aller habiter à la mer ?
Ils ont envie de revenir au travail, clairement. Ça, c'était un petit peu la surprise. Ils ont pas mal poussé le fait qu'on a vraiment fermé les bureaux pendant plusieurs mois. Et il y avait une vraie demande de revenir. Je pense que c'était aussi une vraie demande d'avoir de nouveau des interactions sociales, de pouvoir se revoir. Parce que même quand on est très bien outillé au télétravail, qu'on a tous les outils, qu'on s'est mis des rythmes dans la semaine pour avoir des moments plus informels, c'est très important de se voir au quotidien. Ou si ce n'est pas au quotidien, au moins d'essayer de le faire une fois par semaine.
Vous êtes une entreprise qui est plutôt avec des cadres, jeunes, urbains. Est-ce que vous avez eu, comme beaucoup de grandes entreprises, des départs, des déménagements, du fait accompli pour vous en tant que DRH ?
Alors, chez Shai, on avait déjà une politique qui permet de partir en télétravail à 100%. Alors, c'est encadré. On demande aux personnes de revenir sur site 2 jours par mois, donc tous les mois. On a eu donc des gens qui ont désiré partir, mais tout ça dans une politique très encadrée. Et on a eu, encore une fois, davantage de gens qui finalement voulaient revenir sur siège que de gens qui se sont éloignés.
Mathilde Calette, j'ai regardé très rapidement votre LinkedIn. Vous n'avez bossé quasiment que dans des boîtes de la tech, des boîtes jeunes. Vous n'irez jamais dans un grand groupe en tant que DRH ?
Oh, la belle question. C'est une question que je ne me suis pas posée.
Et ben voilà.
J'aime bien mettre les mains dans le cambouis. J'aime bien être à la fois dans le quotidien des équipes, être au plus près. Et je ne sais pas si ma place serait dans un grand groupe, mais ce n'est pas une porte que je me ferme. Dans tous les cas, pour l'instant, je suis très heureuse chez Shine, donc je me suis franchement jamais trop posé la question.
Il ne faut jamais se fermer aucune porte. Merci beaucoup, Mathilde Calette, d'avoir été avec nous, DRH de Shine, pour parler de cet allongement du congé paternité qui va pouvoir être pris à partir de cette semaine. On va essayer de faire mieux ensemble désormais.
BFM Business. Happy Boulot, le mag. Better Together.
Qu'est-ce qu'être un bon professionnel en 2021 en pleine post-crise financière dans un monde qui se mélange entre le travail et la vie personnelle? C'est compliqué. On va en parler avec Faustine Duriez. Bonjour, vous êtes la fondatrice de Coco Worker et vous avez essayé de regarder un peu quelles étaient les bonnes pratiques pour les managers et les salariés. C'est quoi aujourd'hui être un bon professionnel? Est-ce que c'est juste travailler? J'imagine que non.
Non, effectivement, nous, on pense qu'être professionnel, ça rime avec relationnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre travail a une dimension relationnelle majeure. On ne travaille jamais seul. On va être en contact avec des clients, des fournisseurs, notre manager, nos collègues. Et finalement, avoir de bonnes relations avec cet entourage professionnel, c'est absolument clé et c'est être professionnel. Et
ça veut dire que oui, ça se travaille, c'est-à-dire qu'il faut presque se forcer, s'obliger à communiquer.
C'est exactement ce qu'on essaye de proposer avec notre solution digitale qui promeut en fait l'expression de l'attention positive à l'autre, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'il faut entretenir de bonnes relations pour bien travailler, pour être performant. En plus, ça détermine notre bien-être, notre motivation et notre performance au quotidien. Vous l'avez peut-être d'ailleurs vécu, on a envie parfois de se dépasser parce qu'on a un manager qu'on admire ou même de rester dans un job qu'on n'aime pas parce qu'on est avec des collègues qu'on apprécie. Donc en fait, avec ce monde-là qui est beaucoup plus relationnel, on a besoin de les entretenir avec des attentions positives du quotidien, avec des marques d'attention, des remerciements, des compliments.
Mais comment on sait qu'on a un bon relationnel ou comment on arrive à s'auto-évaluer? Est-ce qu'il faut demander aux autres? Il y a beaucoup de boîtes qui commencent à faire de l'évaluation à 360 degrés où chacun répond sur les autres. Est-ce qu'il faut aller jusque-là?
En fait, c'est marrant parce qu'on cherche toujours à tout mesurer, etc.
Bah oui.
Mais en fait, l'humain est intangible et ce qui est intangible n'est pas forcément insignifiant. L'idée, c'est justement de préserver des relations performantes, enfin harmonieuses. Et pour ça, en fait, c'est en étant positif, en étant agréable aussi au quotidien, en développant des compétences relationnelles, émotionnelles, sociales, comme l'empathie, comme la créativité, le fait d'être là pour l'autre, du soutien, de la solidarité. Et ça se travaille au quotidien. Et en fait, le grand paradoxe dans lequel on vit aujourd'hui, surtout en ce moment, c'est qu'on continue de considérer en fait le temps qu'on va accorder à la cohésion d'équipe comme une perte de temps. Ou alors on va le considérer de façon ponctuelle. On va se dire, on va faire un team building, par exemple, pour justement avoir des relations harmonieuses. Sauf que le team building, c'est ponctuel, ça se fait une fois de temps en temps, et ça ne permet pas d'entretenir de façon durable en fait des relations harmonieuses. L'idée, c'est de se dire qu'on a besoin vraiment d'entretenir de façon régulière et préventive l'attention positive à l'autre, parce que c'est ce qui va faire qu'on se sentira bien avec les autres et qu'on aura envie de coopérer, qu'on aura envie de revenir aussi travailler au bureau.
Mais j'entends dans ce que vous dites vraiment l'aspect positif, comme si le collègue rêvé, c'est vraiment celui qui ronchonne pas, celui qui voit les choses constructives. C'est vraiment ça.
Non, c'est pas ça, c'est l'attention positive. C'est-à-dire que vous pourriez être ça pourrait être un mauvais jour pour vous. Le fait de le sentir, moi, et d'être là en vous disant que je vous soutiens, déjà, ça change la donne. En fait, aujourd'hui, les conflits sont souvent le résultat de problèmes relationnels, d'une perte d'attention. Je suis arrivée en retard et je vous ai blessé sans faire attention. C'était pas mon intention, justement, mais notre relation, elle va être un peu fracturée, un peu fragilisée. Ce qui va faire que peut-être que vous n'allez pas être aussi coopérative avec moi pour la suite.
Ce qui veut dire qu'il faut parler, il faut dire vraiment. C'est en retard, il faut surtout pas penser qu'on travaille seul dans son coin.
Exactement. Et en fait, c'est vrai que c'est pas très naturel.
Même si parfois c'est vrai. On produit seul dans son coin.
Non, en fait, le travail, c'est du partage. On travaille de moins en moins seul. Comme je disais, on est connecté avec les autres. La coopération fait partie de la performance. On ne fait jamais rien seul, en fait.
Quel est le rôle du manager là-dedans, dans cette création du collectif et de la manière dont on doit bien travailler ensemble?
Son rôle, il est clé, clairement. En gros, il a deux dimensions dans son travail. Une dimension opérationnelle qu'on connaît bien, donc c'est le faire travailler ensemble. D'ailleurs, tous les outils sont mis à disposition pour ça en entreprise. Comment être plus performant, travailler plus ensemble, en collaboration, etc. Mais son deuxième rôle majeur, et c'est la dimension relationnelle, c'est le vivre ensemble. Et c'est à lui qu'incombe le besoin, le devoir finalement, de s'assurer qu'il y a des bonnes relations dans son équipe et que les gens ont envie de travailler ensemble du coup.
Vous parlez des outils collaboratifs. Il y a beaucoup de collaborateurs justement qui se sentent assommés par ces outils. Tout d'un coup, on dit on va passer à Salesforce, on va passer à tel protocole, ça va être l'enfer, ils vont nous forcer à faire du process. Ça peut aussi être positif.
Oui, c'est-à-dire que là, tous les outils que vous me mentionnez, en fait, sont des outils à visée opérationnelle. C'est ce qu'on disait, c'est vraiment pour la dimension opérationnelle de notre travail. C'est très cognitif, très rationnel, etc. Il n'y a pas d'outils aujourd'hui qui existent qui permettent pour vraiment développer et entretenir nos relations aux autres. On va penser peut-être à du réseau social, mais le réseau social, c'est fait pour partager de l'information. c'est pas fait pour dire je fais attention à Laure et je vais la valoriser si elle fait quelque chose de bien. Et c'est en fait c'est un peu mon job de faire attention à ça. Et c'est finalement c'est la symétrie des attentions, mais qui est pas uniquement descendante. On va se dire qu'on doit faire attention aussi à notre collègue et à notre manager également.
Et ça aussi c'est un process. Ou ça rentre dans un protocole.
On peut le voir comme un process. On peut le voir comme un process, mais on parle de relations en fait. C'est drôle, ça peut s'appliquer même à notre vie personnelle. En couple, on sait qu'on doit entretenir nos relations pour que ça marche. Bah, c'est la même chose en entreprise. Et finalement, le manager, il est garant de ça. Et en fait, on a, je ne sais pas si vous connaissez le livre Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman.
Non.
Et bien voilà, en fait, c'est intéressant parce que lui, ce qu'il explique, c'est que pour avoir de bonnes relations, il faut par exemple avoir des moments de qualité. Mais ça, quand on l'applique au rôle du manager, c'est exactement faire des one-to-one plus réguliers. Il explique qu'il faut avoir des paroles valorisantes. Bah, c'est exactement ce qu'on propose avec Coworker, de se partager régulièrement des paroles de remerciement, de consolation, de pardon et d'encouragement. Donc c'est des exercices nouveaux, en fait, qui sont absolument fondamentaux aujourd'hui, parce qu'on a, on va vers un travail hybride, donc on a besoin de surinvestir en fait cette dimension relationnelle.
Mais pour vous, ça s'apprend, parce que quand on dit il a de l'intelligence collective ou émotionnelle ou il n'en a pas, on a l'impression que c'est définitif.
Non, justement, en fait, ça s'apprend en continu. En fait, ça se travaille en continu, parce que les relations sont hyper fragiles. Et on parle de soft skills en plus, hein, donc c'est jamais définitif. C'est des compétences molles. C'est un peu comme un muscle qu'il faut travailler régulièrement. On peut pas dire, mais je peux ne pas être méga empathique à la base, mais c'est pas fini. En fait, pour moi, je vais pouvoir le développer par cet exercice-là régulier. Ça sera peut-être pas évident au démarrage, mais petit à petit, ça va devenir une routine, une habitude, et c'est ce qui va faire que je vais avoir de meilleures compétences relationnelles à la suite.
Et est-ce qu'il faut se forcer à parler à l'ensemble de ses collègues ?
Alors,
aller plus loin que les affinités de départ ?
Bah oui, l'idée c'est ça, c'est que notre travail, on a
J'étais
besoin...
J'étais sûre que vous allez me répondre oui.
Non mais on a besoin d'être émotionnellement et relationnellement investi dans notre travail. Alors attention, moi je parle quand même de job dans lequel on est quand même... On a un salaire cohérent, on a des conditions de travail qui sont bonnes, etc. Mais si j'ai déjà ça, ce qui va me donner envie de rester, ce qui va me donner envie de faire plus et de revenir au travail, c'est les personnes que je vais retrouver. C'est les relations que je vais avoir avec les autres. Et ça, c'est pour ça que c'est intéressant de prendre du temps.
Est-ce que vous avez l'impression que les entreprises en sont vraiment conscientes? Que ça, dans l'attractivité, l'ambiance, les collègues, c'est essentiel?
Ce que je vous dis, c'est ça le paradoxe. C'est qu'elles en ont conscience, mais elles le font très ponctuellement. Et jusque-là, elles jouaient beaucoup sur le lieu, finalement. Enfin, ce qui donnait envie, c'était, oui, je vais dans cet endroit-là, qui est en plein centre de Paris, etc. Il y a un baby-foot, c'est cool, etc. Donc c'est ça qui me donne envie d'aller au travail et de rester dans cette entreprise et de m'y attacher. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça parce qu'on va se croiser de toute façon. Et ce qui va me donner envie de rester et de me donner, c'est les autres.
C'est le lien. Merci beaucoup d'être venu nous parler du collaborateur de 2021, Faustine Duriez, fondatrice de Coworker. On va continuer à parler d'humain, on va parler du dirigeant, mais quand il est exemplaire uniquement.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business Case.
Être un dirigeant exemplaire, quel beau projet, mais en quoi ça consiste? C'est notre sujet avec Laurent Labbé, fondateur de Choose My Company. Bonjour, merci d'être avec nous dans Happy Boulot. Le MAG, vous avez créé l'index Happy at Work. C'est une enquête que vous avez fait auprès de 35 000 salariés pour un peu plus de 1400 entreprises. C'est quoi être un dirigeant exemplaire et est-ce que c'est important?
Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Être un dirigeant exemplaire, c'est... absolument indispensable dans un contexte où les leviers traditionnels de la motivation comme le salaire, comme le développement professionnel, la formation ne suffisent plus à fidéliser, à motiver ou à attirer des nouveaux candidats. Donc les leviers de l'exemplarité, il y en a plusieurs, c'est une notion qui revêt beaucoup de réalité. D'abord, le fait de pouvoir faire confiance à ses équipes et que ces équipes fasse confiance aux dirigeants. Et c'est d'ailleurs dans l'enquête Happy at Work qu'on vient de mener un grand enseignement de cette campagne, c'est que depuis 18 mois, la confiance en la direction a fortement progressé. Elle est à plus de 70% de satisfaction des salariés qui expriment leur confiance envers leurs dirigeants.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont été bons sur le plan éthique pendant la crise sanitaire, qu'ils ont bien géré les conflits avec la vie personnelle, qu'ils ont été attentifs, bienveillants?
Ça veut dire que d'abord, ils ont fait preuve de plus d'humanité que ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Et ça, les salariés leur en font reconnaissant. Ils se sont rapprochés des situations individuelles. Ils ont soutenu. Ils ont parfois traversé les mêmes difficultés. Donc, il y a une sorte de rapprochement qui s'est opéré. Ils ont aussi réussi à animer des collectifs. Et ça, c'est très compliqué dans des contextes de travail de télétravail à 100% ou de travail hybride. Animer un collectif, c'est dur. Ils ont finalement aussi modifié leur façon de laisser les collaborateurs prendre des décisions. C'est ce qu'on appelle la subsidiarité. Ils ont été forcés finalement de laisser les salariés prendre des décisions au niveau où était le leur. Et ça, cette autonomie est fortement appréciée.
Donc, si je comprends bien, c'est d'avoir fait confiance aux salariés qui vous rend exemplaire en tant que dirigeant.
C'est s'être humanisé. C'est avoir fait plus confiance et les avoir laissés décider à leur niveau. C'est avoir partagé plus d'informations que d'habitude, avoir fait preuve de transparence sur les comptes, sur les projets, sur les incertitudes. C'est aussi avoir mis en place des systèmes d'évaluation de la performance qui étaient finalement plus clairs et plus objectifs puisqu'on n'avait pas les mêmes ressorts que d'habitude. Et puis, dernier élément, c'est l'attitude exemplaire. L'attitude exemplaire du manager, elle s'est fortement renforcée. Les collaborateurs sont en attente d'une attitude qui est irréprochable, c'est-à-dire en termes de comportement vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des personnes en situation de minorité, les comportements qu'on pouvait accepter il y a quelques années ne passent plus du tout. Ils font prendre des risques sur la réputation de l'entreprise, ils démotivent des équipes ou des collaborateurs en entier, et puis de façon un peu plus grave, ils font aussi le lit des discriminations.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut que le chef d'entreprise ou même le manager, quand on descend d'une échelle, doit être une sorte de modèle? Est-ce qu'il doit, au-delà de donner l'exemple, donner l'envie de le suivre?
C'est un leader et ça a toujours été le cas. Il a toujours besoin d'inspirer et de guider dans une direction qui motive et qui excite les équipes, ça c'est certain. Mais oui, il doit être un modèle, il doit être exemplaire dans ses attitudes. Il doit être équitable, il doit être intègre.
Ça fait beaucoup, quoi. C'est-à-dire, c'est pas si simple d'être exemplaire, intègre, de répondre à toutes les questions, d'être toujours là, et en plus de jamais faire un faux pas et surtout pas une blague qui dépasse. C'est quand même compliqué.
Ah bah, ça a toujours été très compliqué d'être manager ou dirigeant. Je trouve que c'est encore plus compliqué, mais c'est beaucoup plus intéressant. Puisque plutôt que d'avoir un rôle de contrôle, on est dans un rôle de soutien individuel et de régulation et d'animation d'une équipe. Et en même temps, on sait qu'on doit représenter quelque chose, effectivement, d'exemplaire en termes d'attitude, parce qu'on a un impact sur la façon dont les collaborateurs vont être traités derrière. Les entreprises ont renforcé leur rôle social dans cette crise. Le fameux S de l'ESG et la gouvernance, le G de l'ESG, se sont hissés au même niveau que la partie environnementale. C'est une très bonne nouvelle, mais ça fait peser des nouvelles responsabilités sur ceux qui dirigent l'entreprise. Donc la gouvernance, c'est est-ce que je fais preuve de parité dans mes organes de décision? Donc comment je mets en place les façons d'être paritaire? C'est en commençant par avoir des attitudes qui sont exemplaires vis-à-vis des femmes.
Est-ce que vous avez l'impression qu'on écoute du coup plus les DRH?
On écoute beaucoup plus les DRH depuis 18 mois. Ça, ils se sont remis au centre du dispositif d'une très belle façon. Et pas uniquement pour des questions administratives ou de gestion du chômage partiel, mais parce qu'ils ont dû réorganiser l'espace, le temps de travail, mettre en place des suivis de situation individuelle, faire preuve de plus d'humanité que d'habitude. Oui, je pense que le rôle des RH s'est fortement renforcé.
Eh ben, c'est une excellente nouvelle, on espère que ça va durer. On attend toujours que les DRH soient présentés avant les directeurs financiers, c'est notre but dans Happy Boulot le Mag. Merci beaucoup Laurent Labbé d'avoir été avec nous, fondateur de Choose My Company. C'est la fin d'Happy Boulot le Mag. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business et je vous dis à la semaine prochaine.
BFM Business, Happy Boulot le Mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.